Le soir, repensons notre quotidien.
Bonjour, vous écoutez À propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, on vous propose des analyses, des explications et des décryptages. C'est notre oreille sur l'actualité. Lundi de rentrée pour votre podcast quotidien, lundi de rentrée aussi pour les élèves et les professeurs du pays. À l'occasion de leur retour en classe, on se penche sur les défis qui attendent l'enseignement en 2023. Nous sommes le lundi 9 janvier, je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
2023, année qui s'annonce chargée pour tous les acteurs de l'enseignement. La coalition PS-MR-Écolo a encore quelques réformes à faire passer. Il est question du tronc commun qui continue à se mettre en place année après année. Il est question de l'enseignement qualifiant, des cours de citoyenneté et de l'évaluation des profs. Un ensemble de dossiers que l'on va éclaircir avec Éric Burgraff, chef du service société.
Bonjour Éric.
Bonjour Pierre.
Les élèves, leurs profs ont repris le chemin des classes. C'est l'heure de la rentrée aussi pour les cabinets des ministres concernés. 2023, ça risque d'être une année chargée dans l'enseignement, notamment parce qu'on arrive en fin de législature et qu'il y a toute une série de réformes qu'il faut vite faire aboutir.
Tout à fait. En fait, on doit faire aboutir toute une série de réformes qui s'inscrivent dans le cadre du pacte pour un enseignement d'excellence, ce fameux pacte dont on parle depuis 7-8 ans maintenant, qui commence véritablement à sortir ses effets, avec toute une série de réformes qui sont déjà en place, d'autres qui sont votées et qui seront mises en place en 2023, et d'autres encore qui doivent encore en fait être votées, passer le cap du gouvernement et du Parlement. Donc il y a pas mal de travail sur la table de la ministre Désir et des groupes parlementaires cette année. En fait.
Au niveau des réformes qui doivent encore être discutées, juste en un mot, au point de vue politique, il y a plus ou moins un consensus ou ça risque encore de devoir beaucoup batailler aussi à ce niveau-là?
Donc, je pense qu'il y a un consensus au niveau politique depuis que le pacte existe, parce que le pacte a été validé par la plupart des groupes parlementaires. Je pense par exemple au CDH qui était dans la majorité lorsque le pacte était voté et qui est dans l'opposition aujourd'hui. Mais il est globalement dans la même ligne d'action que le gouvernement actuel. Fondamentalement, il n'y a pas de gros conflits sur la mise en place. Il y a parfois certains conflits plus entre les représentants des enseignants et le gouvernement plutôt qu'au sein des coalitions actuelles et anciennes.
Parmi les grands dossiers, il y a évidemment la mise en œuvre du tronc commun. Là, pour cette rentrée-ci en janvier, il n'y a pas grand-chose qui change. La prochaine étape, ce sera surtout pour la rentrée de septembre.
Tout à fait. Donc, en août dernier, le tronc commun a été mis en place en première et deuxième primaire. Fin août de cette année, ce sera le tour des troisième et quatrième primaire. Et puis, on va suivre comme ça chaque année jusque fin 2028. Donc, en août 2028, ce seront les troisièmes secondaires qui vont entamer le tronc commun. Et alors, en août 2029, en fait, ce sera quelque part une date historique, puisqu'à ce moment-là, tous les élèves de la première maternelle à la troisième secondaire auront en fait le même programme de cours et les mêmes ambitions, quelle que soit l'école, quel que soit le réseau.
On en avait déjà parlé ensemble, mais un des chantiers qui reste aussi, c'est la réforme de l'enseignement qualifiant. Une réforme qui a pour but de rendre cet enseignement un peu plus attractif.
Tout à fait. Ça s'inscrit en fait dans le cadre du tronc commun, puisque rappelez-vous que le tronc commun doit initier les élèves à toute une série de choses, dont évidemment les grands classiques que sont les maths, le français, l'histoire, etc. Mais aussi toute une série d'autres apprentissages comme l'esprit d'entreprendre, les aptitudes manuelles, les nouvelles technologies, la créativité, la culture, l'art, etc. L'objectif, c'est de permettre aux jeunes de faire un choix vers le qualifiant ou vers l'enseignement général, mais un choix mûri, un choix réfléchi et un choix positif, et plus comme ça se fait trop souvent aujourd'hui, un choix de relégation. Et donc, dans ce contexte-là, il est important aussi de réformer l'enseignement qualifiant. Ça va se faire en deux étapes. Une qui va commencer, à mon avis, en 2023, avec déjà un premier élagage en termes peut-être d'options qui sont moins fréquentées ou qui sont trop fréquentées par rapport aux besoins du terrain. Il y aura un grand travail qui va se faire. Le nombre d'options va probablement diminuer et les règles pour ouvrir ou pour fermer une option vont se durcir. Tout ça pour commencer à préparer le terrain pour 2029, où là, ce sera l'autre grande réforme du qualifiant à la fin du tronc commun.
Ce qui risque de changer dans les classes dès ce mois de janvier, c'est le dossier d'accompagnement. En gros, c'est un espèce de carnet de bord de l'étudiant qui rentrera officiellement en vigueur en septembre, mais que les professeurs et les élèves pourront déjà appréhender dès ce mois de février.
Voilà, il faut d'abord préciser une chose très importante, parce que ce ne sera jamais un bulletin de discipline. Donc, c'est jamais dans ce genre de carnet de bord qu'on va retrouver le renvoi ou d'autres mesures qui ont été prises à l'encontre d'un élève. En fait, ce carnet de bord, il est numérique d'abord, il permet de suivre un élève tout au long de sa scolarité. Et son objectif, c'est de faire un rapport, quelque part, des mesures qui sont prises par le monde enseignant pour subvenir aux difficultés des élèves. Donc, si un élève a une difficulté en maths ou dans une autre matière, la direction de l'école, les enseignants concernés seront obligés de compléter ce carnet et d'indiquer les mesures qui ont été mises en place pour résoudre les difficultés de cet élève. Et ceci est très important parce qu'en fait, demain, il sera interdit de faire redoubler un élève pour lequel on n'aura pas démontré que tout a été mis en place pour résoudre ces difficultés. En fait, ce carnet de bord se met en place à partir de fin août 2023, la rentrée prochaine, à titre obligatoire. Par contre, les écoles qui auront envie de l'utiliser dès à présent, dès février, elles pourront le faire à titre d'essai, en fait.
Parmi les discussions des prochains mois, on va reparler aussi du cours de philosophie et de citoyenneté. Aujourd'hui, c'est quoi la situation et comment est-ce qu'elle risque de changer dans les mois à venir ?
Aujourd'hui, tous les élèves dans l'enseignement officiel, qu'ils soient organisés par la Fédération de Bruxelles ou subventionnés, donc tous les élèves ont une heure de citoyenneté, le cours de philosophie et citoyenneté. Cette matière est également dispensée dans l'enseignement libre, mais pas sous forme d'une heure, mais dans différents cours. Ça, c'est la situation actuelle. Il faut préciser que dans l'enseignement officiel, les élèves qui ne souhaitent pas de cours de religion ont une deuxième heure de citoyenneté. Ce qui se passe, c'est qu'au sein du gouvernement, on discute d'une note d'orientation pour la suite des événements. Et cette note d'orientation préconise en réalité de mettre de manière obligatoire deux heures de citoyenneté pour tous les élèves. On ne sait pas encore exactement ce qu'il en viendra de l'enseignement libre. En tout cas, l'idée, c'est là, deux heures de citoyenneté pour tous, avec les cours plutôt philosophiques comme la religion, mais aussi la morale, qui seraient eux optionnels, mais tellement optionnels qu'ils risquent peut-être de disparaître de la grille. Puisqu'en réalité, ce qui est sur la table, c'est que les parents qui souhaiteraient encore avoir un cours de religion devront le demander à l'école et l'école sera contrainte de l'organiser, peut-être en dehors de la grille horaire. Tout ça reste à définir et à fixer. Et on s'oriente vers une grande réforme de l'enseignement des cours philosophiques à l'école.
Là, on a surtout parlé des mesures du pacte d'excellence qui concernent les élèves, les étudiants. Il y a aussi des mesures qui concernent les enseignants et une mesure qui suscite pas mal de remous, d'ailleurs, sous ce qui concerne l'évaluation des enseignants. Jusqu'ici, c'est quoi ? C'est les gens qui vont évaluer ? C'est la procédure qui ne satisfait pas les principaux concernés ?
Il faut savoir que dans le pacte d'excellence, il y a toute une série de mesures qui sont prises. Certaines arrangent davantage les syndicats, d'autres arrangent davantage les pouvoirs organisateurs. Aujourd'hui, c'est en fait un grand donnant entre la gouvernance et les acquis sociaux. Ici, on est sur les questions de gouvernance. En fait, les pouvoirs organisateurs étaient demandeurs d'avoir ce processus d'évaluation des enseignants qui va se dérouler de deux manières. Les textes sont sur la table, ce n'est pas encore fait, mais ils devraient prendre deux formes. Une forme d'abord d'évaluation plutôt positive. Quand un enseignant entre en fonction, après un an, après deux ans, après trois ans, il verra son directeur d'école et ensemble, ils verront s'il est satisfait, s'il a besoin de compléments de formation, s'il y a des éléments qui manquent dans son parcours qu'il pourrait compléter. Tout ça devrait se faire de manière tout à fait positive, dans un but de progression, surtout des jeunes enseignants. Par contre, lorsqu'un enseignant ne satisfait pas cette première partie, s'il y a vraiment des gros soucis, on entre dans une phase qui est plus coercitive et beaucoup plus de contraintes. Mais ce sera le cas, à mon avis, très très rare. Et c'est surtout sur ces dispositions de la deuxième partie d'évaluation que les syndicats bloquent aujourd'hui, même si dans les négociations en ce moment, des choses ont déjà avancé.
Une dernière petite chose. L'année passée, on a pas mal parlé de grogne sociale au sein du corps enseignant. Ils sont descendus dans la rue pour la première fois depuis plusieurs années. C'est aussi ce conflit social, un des points qu'il faudra résoudre en 2023.
C'est clair qu'il est grand temps, et pour les gouvernements, et pour les syndicats, et pour les enseignants, peut-être, et aussi pour les élèves qui en sont quelque part un peu les victimes, d'aboutir dans ce conflit social, quelque part d'atterrir. Il faut se souvenir que les syndicats ont des revendications, pas tellement sur des questions salariales, même si les profits étaient mieux payés, ils ne diraient certainement pas non, mais on n'est pas tellement ce genre de discussion aujourd'hui. On est plutôt sur des discussions qui tournent autour de la charge administrative, de la réforme du qualifiant dont on a parlé tout à l'heure, de l'évaluation des enseignants et aussi surtout de la taille des classes. En fait, les enseignants estiment qu'ils ont à leur charge beaucoup trop d'élèves, en tout cas dans certaines situations. En février, ça fera un an que les actions ont commencé, et ça fera un an finalement qu'il y a un dialogue de sourds entre les syndicats et le gouvernement. Ce que les syndicats réclament n'est pas facile à mettre en œuvre. sachant qu'il y a beaucoup de questions financières à régler. Réduire la taille des classes, qui est la principale de la revendication, ça ne se fait pas sans engagement et sans impact financier. Or, on sait que la Fédération de l'Université a des gros soucis financiers. Ça ne s'est pas du tout arrangé en 2022 et pas sûr que ça va s'arranger en 2023. Donc, atterrir, c'est important. Comment atterrir ? Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je pense que ce sera compliqué.
Et on suivra tout ça de manière très attentive. Merci beaucoup, Eric.
À très bientôt.
Grand Angle.
Grand Angle en Tanzanie, nous vous emmenons au cœur d'une coopérative de transformatrices de lait. Elles sont une dizaine à travailler main dans la main avec un objectif, s'émanciper collectivement. C'est un projet soutenu par l'ONG belge Île de Paix. Pour l'occasion, sa marraine, la comédienne Virginie Hoc, a mis la main à la pâte dans la joie et la bonne humeur. Un reportage de Sophie de Castequer.
Première étape, la traite. Virginie Hoc observe, puis se prête à l'exercice.
Je ne sais pas comment me mettre.
Ça va aller. Look!
Ce lait, c'est la matière première qu'utilisera un groupe de femmes réunies en coopérative pour le transformer en lait pasteurisé, en crème ou en beurre.
Donc c'est une coopérative qui existe, je pense, depuis plus d'une dizaine d'années, qui est formée d'une dizaine de femmes.
Ludovic Joly, responsable d'Île de Paix en Tanzanie.
C'était une initiative vraiment de leur part. Donc elles ont senti le besoin de se regrouper pour mettre en place une activité génératrice de revenus, en l'occurrence la transformation du lait. Dans un premier temps, une fois qu'elles se sont regroupées, qu'elles ont développé leur idée d'activité, elles ont ressenti le besoin de se faire former. Donc elles ont envoyé quelques-unes d'entre elles se faire former sur la transformation du lait. Donc elles ont pu se rapprocher des autorités locales qui leur ont octroyé une subvention pour acheter une première machine leur permettant de lancer leur activité. Et puis au fur et à mesure, l'activité est devenue rentable et avec les bénéfices qui sont issus de cette activité, elles ont pu aussi investir par elles-mêmes pour renforcer leur équipement et améliorer leur processus de transformation.
Ce processus, Virginie Hoc a pu l'observer du début à la fin en écoutant les explications de l'une des membres du groupe.
La coopérative, là, c'était super parce que directement, en fait, elles avaient préparé tout leur visite et elles avaient une fierté vraiment de nous montrer ça. Tout était organisé au niveau de la tenue, ses couleurs jaunes, elles étaient habillées semblables. Donc, il y a une volonté d'accueil et de montrer vraiment comment ça se passe, une grande fierté. Donc là, on est arrivé, elles nous ont expliqué que des petits producteurs, toujours autour de Keratu, venaient apporter leur lait. Ce lait repasse dans un grand seau et va être ensuite mis dans une machine, dans une grande cuve, comme un entonnoir. Imaginez un entonnoir avec deux embouts qui sortiraient, une manivelle. Et là, en tournant cette manivelle, le lait, avec la force centrifuge, va séparer le petit lait de la crème.
Île de Paix travaille dans les pays en développement pour transformer le système alimentaire en un système plus durable. Pour ça, ils font un travail de sensibilisation auprès des producteurs, des consommateurs, des autorités, mais s'intéressent aussi aux étapes intermédiaires, comme ces transformatrices de lait, pour qui ils organisent des formations.
Nous, les formations qu'on a amenées donc étaient également des formations techniques. Mais encore une fois, nous, on s'est beaucoup plus focalisé sur l'esprit d'entrepreneuriat, commercialisation, les questions de négociation, recherche de marché. Parce que ce groupement avait besoin de comprendre le fonctionnement du marché, de qui fait quoi, de développer aussi ses compétences en termes de négociation. Et finalement, toutes ces compétences apportent aussi une confiance en soi. Je pense que ça crée vraiment un esprit de « oui, c'est possible, je peux le faire ». Et c'est ce qu'on a vu vraiment avec ces femmes, ou bien avec d'autres transformateurs, on a vraiment pléthore d'exemples comme ça. Une fois que les compétences sont là, la trajectoire de développement est beaucoup plus facile parce que les gens s'en sentent capables et ils se donnent les moyens aussi d'arriver là où ils veulent arriver.
Dernière étape de cette transformation, battre la crème pour en faire du beurre.
Comme elles n'ont pas de machine, écoutez bien, elles n'ont pas de machine pour pouvoir faire un batteur, elles n'ont pas de batteur géant pour pouvoir battre ce beurre, cette crème pour qu'elle devienne beurre. Donc ça va mettre une heure, plus d'une heure, je pense, à plusieurs femmes pour le mélanger pour que toute cette crème devienne beurre. Je me suis dit, tiens, je vais essayer, comme j'aime beaucoup essayer les choses, j'ai essayé. Mais je crois que moi, j'ai besoin de musique en général, ou en tout cas un bon rythme. Et c'était super, parce que, évidemment, j'arrive là, j'essaie toujours, j'avoue, de mettre un petit peu d'humour dans les choses, parce que je me sens toujours une espèce de touriste. Je me sens pas à ma place, et pourtant, je demande pas mieux que de rencontrer les gens, la barrière de la langue est difficile et je voudrais juste dire, oh, je vous jure que je suis tellement contente de vous voir, comment je peux faire? Je vois que ma façon de bouger, ma façon d'être en étant assez proche des gens et plutôt empathique, m'a donné l'idée de faire un rythme en mélangeant cette crème pour qu'elle devienne de beurre et c'est devenu une chanson et du coup il y avait voilà, le lien. La musique en fait, on rend compte que ça fait un lien formidable, que ce soit la danse, la musique et voilà, c'était parti, c'était acquis, je crois que c'était genre, oh, elle a l'air sympa cette grande saucisse.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain dès 7h. En attendant, abonnez-vous, partagez-nous. Vous nous trouverez sur notre site, notre application et votre plateforme de podcast préférée. À demain.